Tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. 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 Unverzüglich.
Je m'appelle Andrea, j'ai grandi à Berlin-Est et j'avais 18 ans quand le mur est tombé.
Épisode 2.
Alors, quand on parle de pénurie, il y avait la pénurie de logements, mais en fait, tout ce qui demandait de devises, parce qu'on n'avait pas les devises, hein, il y avait deux monnaies, la monnaie de l'Ouest qui avait de la valeur sur les marchés, mais la nôtre n'avait aucune valeur. Et donc, en gros, tout ce qui demandait à être acheté sur les marchés était très, très compliqué pour l'Allemagne de l'Est. Et donc, on avait, par exemple, des fruits, légumes, on n'avait que ce qui poussait chez nous. Et de temps en temps, deux fois par an, peut-être, il y avait des livraisons de bananes. Et ça se savait. Hein, quand le supermarché d'à côté, il avait des bananes, les gens, ils allaient, ils faisaient la queue pendant 3 heures pour acheter quelques bananes. Et du coup, ça nous a même donné un petit surnom. On nous appelait la République des bananes, la Banane République. Parce que c'était un peu typique pour des choses qu'on n'avait pas, quoi. Ou alors, quand, par exemple, on avait des petites voitures qui s'appelaient Trabantes, des Trabis, quand il fallait réparer, quand il y avait une pièce qu'il fallait changer, etc., et ben, c'était pas juste aller dans un garage et changer la pièce. Très, très souvent, ça fonctionnait pas, parce que les pièces n'étaient pas disponibles. Et donc, il s'était installé une espèce de système de troc. C'est-à-dire, les gens, ils se débrouillaient, ils savaient très bien que un tel, il travaille dans un magasin de vêtements, et en fait, il savait quand est-ce qu'il y avait une livraison peut-être de baskets ou de jeans, et en fait, il en gardait un peu de côté, parce qu'il pouvait échanger les baskets contre une pièce de rechange pour la Trabi. Donc ça fonctionnait comme ça, parce que l'argent avait pas tant de valeur que ça, puisqu'on pouvait, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait pas acheter avec, puisque tout simplement, il n'y en avait pas. Et donc, il y avait beaucoup, beaucoup de troc, ou aussi des albums de musique un peu rares, ça se négociait un petit peu. Ça n'apparaissait pas officiellement dans le magasin, quoi. Hein, donc, c'était plutôt, il fallait connaître un tel, qui connaissait un tel, et donc ça fonctionnait comme ça. Et ça fonctionnait pas si mal que ça, finalement. Parlant de voitures aussi, alors ce qui était assez marrant, c'est que donc les voitures étaient construites. Il y avait deux sortes de voitures qui étaient fabriquées en Allemagne de l'Est, la petite et la grande, hein, la Trabi que tout le monde connaît un petit peu, qui est un petit peu la mascotte de la voiture de l'Est, et une plus grande qui s'appelle la Wartburg. Le problème, c'est que les usines qui les fabriquaient n'arrivaient pas du tout à fabriquer, à l'échelle où les gens ils en avaient besoin. Du coup, les gens se mettaient sur liste d'attente pour acheter une voiture. Il faut dire aussi qu'une voiture, ça coûtait tellement cher qu'on mettait peut-être 10 ans d'économie pour pouvoir en acheter une. Mais ce qui se faisait beaucoup, et ce qui se faisait d'ailleurs chez moi, ma grand-mère, à ma naissance, elle m'a mis sur une liste d'attente pour l'achat d'une voiture, parce qu'en moyenne, ça mettait 15 ans, quoi. Jusqu'à ce que on soit arrivé en haut de la liste d'attente et qu'on puisse acheter sa voiture. Et du coup, elle m'a mis sur liste d'attente à ma naissance, en espérant qu'à mes 18 ans, je serai arrivé en haut de la liste et je pourrai acheter ma voiture. Et c'est assez marrant, je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a qui ont regardé le film Goodbye Lenin, qui a eu beaucoup de succès aussi en France, où à un moment donné, ils montrent ça. Ils doivent mentir pour que la mère dise où elle a caché l'argent. Et justement, ils disent « Maman, on est arrivé tout en haut de la liste au bout de 15 ans et on peut chercher notre voiture. » Et c'était vraiment comme ça. En gros, on recevait un courrier au bout de 12, 13, 14, 15, 20 ans qui disait « Bah voilà, ça y est, votre voiture, vous pouvez la chercher. » Et donc là, on ne posait pas de questions. Hein. Est-ce qu'elle est bleue? Est-ce qu'elle est jaune? Est-ce qu'elle est blanche? Non, on prenait la voiture qui sortait de l'usine et on l'achetait.
Vous ne choisissiez pas le modèle?
Il n'y en avait que deux. Donc, il y avait la Trabant et la Wartburg. La Wartburg, elle coûtait encore plus cher. Et je crois que la liste d'attente était encore plus longue parce qu'ils en fabriquaient moins. Donc, tu choisissais la Trabant, tu ne choisissais pas la couleur. Non, c'était quand elle arrivait, tu la prenais.
Elle était comment, la vôtre?
Elle était blanche. Alors, nous, justement, on n'a jamais eu une neuve. Hein. On n'est jamais arrivé en haut de la liste. Donc, ce qu'ils faisaient aussi, c'est nous, on l'avait acheté d'occasion, je ne sais plus à qui. Et c'est pour ça aussi que c'est assez marrant, c'est que les voitures d'occasion, en Allemagne de l'Est coûtait plus cher que les voitures neuves, parce que tout simplement, quand on trouvait quelqu'un qui voulait bien vendre sa voiture, on pouvait l'avoir tout de suite. Et il ne fallait pas attendre 15 ans. Donc en fait, et les gens, à la rigueur, quand ils étaient en la liste, même s'ils n'avaient pas besoin de la voiture, ils l'achetaient. Parce qu'ils pouvaient la revendre très très cher derrière, quoi. Et ben moi, j'avais 17 ans quand le mur est tombé, donc j'étais jamais arrivée en haut de la liste. Donc je sais pas quand est-ce que j'y serais arrivée.
Il y a peut-être une voiture qui t'attend.
Il y a peut-être une voiture qui m'attend encore quelque part. Non, mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, après la chute du mur, un an après, quand on a eu la réunification monétaire, du coup, ces voitures-là ne valaient plus rien. Plus personne n'en voulait. Tout le monde voulait s'acheter sa belle voiture de l'Ouest. Et du coup, on les vendait pour une bouchée de pain. Et c'est là que j'ai acheté ma première Trabant. Et je crois que je l'ai payée... allez, en euros, ça doit faire peut-être 200 euros.
Ah oui.
Voilà. C'est donc j'avais...
De prix de deux pleins.
Voilà, de rien du tout, quoi. Voilà. Et donc j'avais ma petite Trabant blanche de mémoire et avec laquelle je circulais dans Berlin. Celle que j'avais jamais eue avant. Et maintenant, c'est devenu des voitures de collection. Donc, à un moment donné, on en voyait plein. Et maintenant, on n'en voit quasiment plus à Berlin. Et c'est devenu ils ont le statut de voitures de collection et ça se vend assez cher. Donc, voilà l'histoire de la petite Trabant.
C'était quoi les vêtements de l'Est ?
C'était pas du tout à la mode, quoi. C'était... En fait, le problème avec les productions à l'Est, c'est que c'était une économie planifiée, hein. Ils avaient des quotas à atteindre. C'était pas forcément, ils n'avaient pas les moyens d'être vraiment à la mode, ils n'avaient pas les bons tissus. Alors les jeans, de toute façon, c'était quasiment introuvable. Hein. Et donc, ça se voyait tout de suite, quoi. En fait, le problème était là, ça se voyait. Et du coup, alors quand on voulait des vêtements un peu mieux, parce que l'Allemagne de l'Est fabriquait quand même des vêtements pour des marques de l'Ouest. D'ailleurs, il y aurait même des meubles. Hein. IKEA fabriquait une partie de ses meubles à l'Allemagne de l'Est, parce que ça ne coûtait pas cher, puisqu'on faisait à un moment donné avec les pays de l'Est. Hein. Sauf que tous les produits, les vêtements, les meubles, tout ce qui était vraiment bien et qui était fabriqué donc pour avoir des devises, donc pour l'Allemagne de l'Ouest, on n'y avait pas accès. Ça partait directement en export et donc ça partait directement vers l'Allemagne de l'Ouest. Et donc de temps en temps, voilà, il y avait des produits qui avaient peut-être des petits soucis, ou qui étaient mal faits, etc. Et de temps en temps, qu'il y avait une livraison du coup de jeans ou de meubles dans un magasin, mais là, c'était fallait être au bon moment, au bon endroit, et tout le monde se ruait dessus. Et il y avait aussi des magasins de luxe qui s'appelaient des Exquisites. Et là, on pouvait du coup trouver des trucs un peu plus à la mode, des vestes un peu plus jolies, etc. Mais ça coûtait une fortune. On pouvait payer un salaire mensuel pour une veste, par exemple. Et donc, c'était vraiment le grand, grand luxe. Et on avait aussi des magasins dans lesquels on pouvait acheter les produits de l'Ouest. Mais du coup, il fallait avoir la devise de l'Ouest. Donc les gens qui avaient donc la famille qui leur envoyait un peu d'argent, etc., ils pouvaient acheter dans ces magasins-là. Ben moi, j'avais très peu. J'avais un tout petit peu que mon oncle me donnait des fois pour Noël. Donc c'est vrai que je traînais devant ces magasins, je rêvais. Des fois, je rêvais que quelqu'un perde un petit billet. Donc je regardais par terre si par hasard, quelqu'un perdait peut-être un petit billet. Mais bon, jamais trouvé. Et en gros, la seule chose que je m'achetais dans ces magasins, c'était les cassettes. Parce que donc, on ne pouvait pas acheter les vinyles de groupes, je ne sais pas, qui étaient à la mode à l'époque, Madonna, Depeche Mode, tous ces groupes-là. Et donc, on était obligés, pour pouvoir écouter notre musique, de l'enregistrer un petit peu sur les cassettes en écoutant la radio. Et donc, les cassettes de l'Est étaient d'une qualité exécrable et coûtaient pas hyper cher. Donc voilà, je mettais tout mon argent dans ces cassettes, je me rappelle très bien, rouge, BASF, 5 Deutschmark. Donc 2,50 € quoi, qui était vendu dans ce magasin-là. Et voilà, je m'enregistrais la musique que j'écoutais, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'écoutait pas du tout la musique, ou très peu en tout cas, la musique de l'Est. Parce que c'était un peu comme les vêtements, hein, tout ce qui venait pour nous hein, de l'Est, c'était un peu... pas la mode, pas bien. C'est presque dommage, hein, parce qu'il y avait des choses pas mal, mais on le refusait d'office. Et du coup, donc on écoutait un petit peu sous la couette le soir la radio de l'Ouest et on enregistrait nos chansons. On regardait évidemment aussi la télé, les chaînes de télé de la Manne de l'Ouest, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas couper comme ça des ondes dans une même ville, même si ils auraient bien voulu. Ce qui faisait que, bah, en fait, tout le monde, hein, quasiment tout le monde, regardait la télé de l'Ouest, sans le dire, parce qu'on était très vite, très tôt formatés, presque sans qu'on nous le dise. Hein. Je n'ai pas de souvenir qu'on me l'a expliqué. Mais je me rappelle très bien que je savais très, 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 très bien et très tôt qu'à l'école, il fallait que je dise que je regarde la télé de l'Est et que, voilà, et que je ne connais pas telle ou telle émission, mais qu'à la maison, j'ai regardé La Petite Maison dans la Prairie, j'ai regardé toutes les séries, bah, comme tout le monde, en fait. Je pouvais très bien, par exemple, à l'école, en histoire, rédiger une dissertation sur le capitalisme pourri et moribond et mourant. Et le soir, à 9h, je me jetais sur la télé pour regarder le dernier épisode des Dynasties ou de Dallas. Quoi. Ça ne nous posait pas de problème. C'était normal. Parce qu'on pourrait se dire, oh mon Dieu, on a dû en souffrir, mais non, c'était normal.